France Culture.
L'histoire du jeu vidéo commence et débute par un face-à-face, mais c'est surtout la découverte d'une interaction. C'est-à-dire que ça n'existe pas. On est habitué au spectacle passif, on est habitué à la littérature, on est habitué au cinéma, mais on n'est pas habitué à être acteur. Totale révolution, c'est-à-dire que c'est ça le rock'n'roll dans le jeu vidéo, parce qu'il va y avoir une vraie confrontation de génération. Là, les jeunes gens vont prendre le jeu vidéo littéralement tout de suite en main. Le jeu vidéo marque sa différence avec les autres médiums présents par son interactivité.
17h-18h
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les épopées, et de tous les récits. C'est une heure de radio sur la musique, en musique, en ping et en pong. La série musicale, bienvenue. C'est une atmosphère musicale évanescente, mais hyper précise néanmoins, musicalement ancrée dans la France des années 1910, et pourtant capable en 156 morceaux de nous faire traverser à peu près tous les états émotionnels. C'est la musique du jeu français Clair-Obscur Expédition 33 que vous entendez ici, l'une des très nombreuses plages de ce jeu français conçu à Montpellier et qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires et a remporté au Games Award il y a quelques jours 9 trophées. Games Award, c'est l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. Et c'est le très convoité meilleur jeu de l'année que Clair Obscur a remporté, presque contre toute attente. C'est un jeu qu'on ne voyait pas venir. On y évolue dans un décor belle époque, mais steampunk. Et le jeu, c'est immédiatement distingué par sa très forte capacité à générer de l'émotion, grâce à sa jouabilité, bien sûr, mais surtout à son histoire. Il est question d'une entité mystérieuse, la peintresse, qui fait disparaître chaque année des générations entières. Mais aussi grâce à sa musique, composée par le très talentueux Lorient Testard, qui n'avait que 25 ans quand la conception du jeu a démarré, et dont la musique aujourd'hui cumule des millions d'écoutes. Elle s'est hissée plusieurs semaines en tête du classement des meilleures ventes de musique classique de Billboard. Une tournée en France et dans plusieurs pays d'Europe est annoncée après 5 concerts qui se sont joués à guichets fermés fin octobre à Paris. Alors tout cela nous a donné envie de faire une série qu'on attendait depuis assez longtemps, une série indispensable consacrée à cet immense corpus que représente aujourd'hui la musique conçue depuis 40 ans pour le jeu vidéo. Pendant longtemps, cette musique a été reléguée au rang de bruit de fond, quelques bips, des boucles répétitives, une immense contrainte technique plus qu'un choix artistique, même si dès le début, le son que l'industrie vidéoludique génère va influencer au-delà même du chant. Pourtant, en 40 ans à peine, elle est devenue l'un des langages musicaux les plus inventifs, les plus populaires et les plus émotionnels de notre époque. Cette série va tenter de raconter cette histoire de l'arcade et des signaux sonores des années 80 aux grandes fresques orchestrales des années 2000-2010, de la puce 8 bits au monde ouvert, des mélodies ludiques au grand paysage intérieur, la musique de jeux vidéo qui intègre aujourd'hui absolument tous les éléments possibles du réel et s'entend aussi bien dans le jeu qu'à travers le jeu, accompagne, façonne, parfois même précède l'expérience du joueur. Elle laisse une empreinte extrêmement difficile à mesurer. À travers des compositeurs devenus cultes, Koji Kondo, Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda, Akira Yamaoko, Yoko Shimomura et bien d'autres aujourd'hui. Et les jeux qui ont changé notre manière de jouer. On va essayer de comprendre comment cette musique a quitté l'écran pour entrer dans nos mémoires. Une série en 4 parties, ô combien subjective et comme toujours absolument pas exhaustive, comment pourrait-on ? Il y aura forcément des oubliés, mais qui tentera de faire le récit de ce qui est sans doute l'une des plus passionnantes histoires musicales contemporaines et qui commence dans la fin des années 70 avec une contrainte technique qui produit pourtant une des créativités les plus ébouriffantes. Vous écoutez ici le Yellow Magic Orchestra. Nous sommes en 1978 et déjà, l'influence des sons du jeu vidéo se fait entendre dans ce groupe absolument génial, les Craves Vertes japonais qui se sont saisis de cette matière inouïe, extrêmement vivante et prodigieusement nouvelle qu'est la musique de jeux vidéo dans ce computer game qui va durablement influencer. À la fin des années 70, le jeu vidéo n'est pas encore une bande originale. Il y a des bips, il y a des impulsions, des signaux, car on est dans les salles d'arcade et le son n'est pas là pour émouvoir. Il sert surtout à prévenir, à attirer l'œil de ces joueurs, cette nouvelle génération qui découvre une façon de passer le temps. L'idée, c'est de faire comprendre en une fraction de seconde que quelque chose commence, que quelque chose se joue. On est à l'époque des circuits analogiques, des processeurs son qui sont hyper réduits, même si déjà on s'amuse beaucoup avec quelques canaux à peine et parfois un seul. La musique n'est pas enregistrée, elle est générée en temps réel, note, par la machine elle-même. Et chaque son coûte de la mémoire, chaque silence est donc un choix. Le compositeur, et encore parfois il n'y en a pas toujours, est autant un technicien qu'un musicien. Et dans ce premier âge du jeu vidéo, le son fonctionne comme un langage universel, un jingle pour dire « prêt », une boucle pour dire « danger », quelques notes à peine pour signifier la victoire ou l'échec. Ce sont des codes immédiats qui sont pensés pour des joueurs qui sont pressés, debout, entourés de bruit. Je vous conseille d'aller faire un tour dans une salle d'arcade encore aujourd'hui au Japon. Avant de devenir une musique à part entière, le son est d'abord un signal vital. Si vous avez moins de 40 ans, peut-être même de 50, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais ce son est absolument fondamental. On est en 1980 et ici, on est dans Pac-Man. La musique sert de signal d'allumage pour ce mythique jeu d'arcade à labyrinthe où on fuit des fantômes. Tout se joue à la seconde près et entre deux niveaux, une petite mélodie comique se glisse, une forme de respiration ludique ou de gag musical. Les jingles sont écrits pour ressembler au son de jouets électroniques dans ce jeu, puisque le créateur, Toru Iwatani, voulait que le jeu Pac-Man sonne plutôt mignon et pas futuriste. C'était vraiment déjà, dans quelques notes, une forme d'intention. Quasiment la même année, va sortir Galaxian, un jeu de Namco, qui investit pour la toute première fois dans un compositeur en interne. C'est la naissance du métier de game music composer au Japon. Et ça va devenir, vous allez l'entendre, une voix assez passionnante. Ici, on est dans un vaisseau, et on doit arrêter des vagues d'ennemis dans l'espace. Le hardware permet des sons plus continus que dans Pac-Man, mais toujours monophoniques. Et la musique annonce l'action cette fois, comme ici, cette fanfare électronique de décollage. En 81, va sortir un jeu qui va devenir l'un des plus joués de l'histoire. Vous y avez forcément traîné vos guêtres un jour. C'est Donkey Kong qui sort d'abord sur bornes d'arcade, puis sur de nombreuses consoles et micro-ordinateurs. Le son est généré par un hardware très limité, puisqu'il y a très peu de canaux et une mémoire minuscule, donc chaque note est un choix stratégique. Donkey Kong est l'un des tout premiers grands succès de la Nintendo. On y incarne un petit personnage, c'est le futur Mario. Il n'a pas encore de nom à l'époque, qui doit grimper des plateformes, éviter des obstacles et qui doit sauver Pauline, prisonnière d'un gorille géant. Le gameplay est très très simple, mais il est nerveux, il est lisible en une seule seconde. C'est évidemment la musique de Yukio Kaneoka, qui est alors un jeune musicien chez Nintendo. Donkey Kong est assez similaire à ce que vous avez déjà entendu, mais il produit une idée nouvelle, une musique qui va structurer l'action, c'est-à-dire marquer le début du danger, ou la chute, ou l'échec. Une petite plage dans Donkey Kong en 1981. sauts de 25 mètres et de 100 mètres. Vous entendez quand même la créativité de ces compositeurs techniciens qui font avec très peu et qui déjà posent la base de ce qui va se jouer dans le jeu vidéo. Ces sons rentrent en fait en connexion avec votre adrénaline, votre dopamine. Ils vous accompagnent durablement. C'est Koji Kondo qu'on va retrouver à la manette de plusieurs grands jeux de ces années. C'est l'un des pionniers de cette musique du jeu vidéo et c'est lui qu'on retrouve notamment à la soundtrack du jeu Super Mario Bros. Qui va commencer à introduire de vrais éléments mélodiques dans le jeu vidéo et en réalité, avec ces mélodies, commencer à entrer dans le cœur des joueurs. Et ce qui est fondamentalement frappant, évidemment, c'est la manière dont Koji Kondo est un pionnier dans le sens où il comprend tout de suite que cette musique, elle est pensée et pensable uniquement depuis le jeu, comme il le racontait ici. J'ai écrit la bande originale de Mario en regardant et en fait en jouant à Super Mario Bros. En même temps que le jeu était créé. C'était pour moi une manière d'avoir une image mentale du rythme et de l'atmosphère du jeu quand je l'ai écrit. J'aurais évidemment jamais pensé que ça deviendrait un thème aussi connu par tant de gens de par le monde. Et je suis ravie de savoir que des gens aujourd'hui jouent à ce jeu et qu'ils sont capables de reprendre ce thème avec tous les instruments possibles et imaginables. Koji Kondo avec son piano qui nous fait entendre ses trouvailles. Koji Kondo qui va donc être à la base de un thème, plusieurs thèmes hyper importants sur ce jeu Mario Bros qui sort en 85 et son désormais célébrissime Overworld Theme. Ce merveilleux petit Mario Bros, l'Overworld Theme, qui ne va cesser d'évoluer, évidemment, à chaque moment de l'évolution de ce jeu, qui restera un jeu mythique, qu'à peu près tout le monde a joué à un moment donné de sa vie. Il est intéressant de regarder que c'est Koji Kondo qui sera à l'origine de cette puissance et de cette arrivée après ce son comme signal d'une véritable recherche mélodique dans les prochains jeux. Alors certains sont mythiques, Super Mario, Mario Bros évidemment, et bien d'autres, mais il est une expérience qu'on aime beaucoup. Balloon Fight, c'est le titre logique qu'on entend, où on entend Koji Kondo commencer à poser les bases de son style, un style qui va énormément s'épanouir, notamment dans l'immense franchise de la légende de Zelda, mais on n'y est pas encore. La patte Kondo, elle se forme à ce moment-là, vous allez le découvrir dans ce title theme qui date de 84, et à partir d'un son qui était plutôt un signal, qui contribuait à générer l'action, vous allez voir cette première tentative d'évoluer vers une mélodie plus émotionnelle avec les moyens du bord qui sont encore une fois extrêmement limités. Balloon Fight avec cette musique qui, évidemment, est à la croisée de ces deux fonctions. On ressent chaque saut, chaque fragile équilibre, ces petits motifs qui sont à la fois sautillants, mais qui déjà introduisent une notion de mélodie. Une mélodie qui est censée nous accompagner et qui, quand on est un peu accro, peut nous accompagner pendant des heures entières. Évidemment, cela joue un rôle. La chose fascinante avec ce son 8 bits, c'est que elle aura tellement durablement marqué les joueurs et les joueuses qui l'ont vécu dans les années 80, tout enfant, qu'elle est aujourd'hui évidemment au cœur de cette esthétique du jeu vidéo, alors que les moyens sont aujourd'hui sans commune mesure. On peut absolument faire absolument tout ce qu'on veut en termes de musique. De nombreux, très nombreux jeux dans les années 2010 et jusqu'aux années 2020 vont reprendre cette esthétique du 8-bit, c'est-à-dire volontairement aller rechercher ces sons, pourtant pas nécessairement très agréables à l'oreille comme ça quand on n'y est pas habitué, pour susciter chez le joueur une forme de nostalgie, de mélancolie, ou en tout cas reprendre les codes du jeu, dire qu'ils ont la même matrice. Écoutons par exemple Shovel Knight, un jeu de 2014 où le compositeur Jay Kaufman va délibérément choisir d'utiliser un chiptune façon années 80, mais qu'il modernise dans le même esprit du 8-bit, avec cette fois une liberté totale, puisqu'il a la possibilité d'avoir des textures beaucoup plus riches, des motifs beaucoup plus complexes, des réverbérations, et d'aller vers une écriture qui est beaucoup plus forte, mais qui accompagne néanmoins toujours les aventures, les combats, dans ce jeu où il est question d'exploration. Et évidemment, cette musique, on la retrouve dans l'esthétique du jeu qui utilise des graphismes très rétro. Ce chiptune moderne, on l'aime beaucoup parce qu'il nous permet justement de faire le lien avec la créativité débridée de ces pionniers des débuts. Jay Kaufman qui s'amuse avec ce chiptune moderne qui a, évidemment, vous l'entendez, beaucoup plus de couleurs que les originaux et qui a plus uniquement pour fonction de signaler un danger ou de vous accompagner dans le jeu, mais vraiment de susciter des émotions. La musique devient cette espèce de grand copain qu'il était déjà en fait dans ses jeux originels. On est évidemment dans ces années, au cœur de ces années 80, dans un moment d'inventivité absolue. Vous l'avez compris, depuis 4-5 ans, il y a désormais des compositeurs de jeux vidéo qui travaillent extrêmement près des développeurs avec des contraintes techniques qui, même si elles s'enrichissent à chaque fois, grâce notamment à la Nintendo, vont quand même rester à peu près stagné pendant quelques années. On va écouter Metroid, qui est déjà en réalité un très bel objet d'innovation musicale, un jeu de 86 où le joueur incarne Samus Aran, qui est une femme, une chasseuse de primes intergalactique, qui doit neutraliser les Metroids et affronter Mother Brain. C'est un jeu d'aventure, d'exploration, et chaque zone se débloque avec des améliorations différentes. Le gameplay joue sur la découverte, et c'est à ce moment-là que Metroid, qui est donc dans la firme Nintendo, se retrouve avec les mêmes contraintes que tout le monde, c'est-à-dire une puce sonore limitée à 3 canaux. Et c'est l'idée de créer des boucles pour accompagner ce jeu, créer à la fois une sensation d'isolement et en même temps de vastitude. En fait, l'idée, c'est d'essayer de donner de la profondeur de champ à des espaces jouables qui sont encore hyper techniquement limités. Et c'est Orakazu Hip Tanaka qui est à l'œuvre dans la musique de ce jeu, qui va développer une musique, on va dire, d'atmosphère. Après la mélodie, on est dans le développement, avec toujours ces moyens très limités, une tentative de créer un paysage en l'occurrence ici très assez atmosphérique et hypnotique. Alors, il est simple ce morceau, mais qu'est-ce qu'il réussit bien à faire ce qu'il doit faire? On est dans un moment d'exploration, mélodie à la fois légère mais quand même un peu mystérieuse. Vous avez entendu ces petits intervalles qui sont ascendants et descendants, qui créent à la fois l'envie finalement de continuer à explorer, mais qui structurent quand même une atmosphère de jeu un peu angoissante. L'idée, c'est d'accentuer votre solitude, mais de vous dire que le monde est à vous. Autre très très beau titre, assez mythique, hein, de ce jeu, c'est Kraid's Lair, un thème qui accompagne l'affrontement quand on joue avec le boss Kraid, et là on est vraiment sur des nappes sombres, un rythme lancinant, une poussée dramatique. C'est 86 avec Tanaka, la véritable construction avec les moyens du bord d'une ambiance de jeu. Thank you. l'immense beauté, on peut le dire, de ce thème écrit par Kanaka, Kretzler, qui évidemment peut nous totalement nous évoquer des morceaux d'orgue baroque. On va revenir évidemment sur les influences puissantes de ces compositeurs de jeux vidéo. Ce qu'il y a d'intéressant avec la création de ces mélodies atmosphériques dans ces années 80, c'est qu'elles vont évidemment puissamment marquer. Et que là encore, on est toujours très tenté d'y faire allusion. On avait envie, comme un flash forward, de vous donner à entendre, pour nous, l'une des bandes originales les plus réussies, écrites par une femme, car, vous l'avez bien compris, à l'époque que nous écoutons, elles sont peu nombreuses, les femmes. Nous sommes au Japon, nous sommes dans les années 80, c'est une industrie de geeks. Mais là, vous écoutez une bande originale composée par la merveilleuse Lena Raine pour le jeu Céleste. Un jeu de plateforme indépendant où le joueur incarne Madeline. On est sur un jeu qui date de 2018, très proche de nous. Il est question de gravir une montagne. Chaque niveau est une forme de puzzle. Il y a une forme à la fois de jeu challenge assez intense, mais une narration très intime avec des thèmes composés par une Lena Raine en état de grâce, il faut le dire, qui compose ces espèces de nappes électro-éthérées mélodiques qui reprend vraiment cette capacité à créer du paysage par le son et qui fait, malgré la présence d'un piano, tout à fait allusion à ces sons si forts qui étaient arrivés dans les années 80. We'll be right back. Honnêtement, petit chef-d'œuvre, ce Résurrection, bande originale, composée par Lena Raine pour le jeu Céleste, un thème à la fois électro, éthéré, qui va absolument tout mêler, ces nappes synthétiques qui sont parfois évidemment extrêmement évoluées, mais vous entendez ces petits sons, ces petits 8-bits qui vraiment font penser à l'âge d'or du 8-bits et de ce qui se joue en réalité dans les studios aux alentours des années 85-86. On a déjà parlé de Super Mario Bros. Qui est développé en même temps qu'un autre jeu. Un jeu qu'on aurait pu utiliser en réalité pour structurer toute cette série. On pourrait écrire une histoire du jeu vidéo à travers l'histoire de la musique de ce jeu. Ce jeu s'appelle The Legend of Zelda, la légende de Zelda. Le développement se fait en même temps que Super Mario Bros. Par un Miyamoto qui supervise deux équipes. Et c'est évidemment le même compositeur qui est à la charge. Alors, Legend of Zelda a fait l'objet de très nombreuses analyses musicales, pas uniquement. C'est un jeu qui entretient un lien très profond, puisque l'une des versions du jeu, Ocarina of Time, utilise même un instrument comme enjeu même du jeu. Les liens extrêmement forts sont sans doute liés aussi au fait que c'est un projet extrêmement personnel de son créateur, qui part de souvenirs d'enfance, d'idées de grottes, d'une idée comme ça très bucolique. C'est une série de jeux qui va énormément s'inspirer aussi bien des influences de Tolkien que du film Legend de Ridley Scott. On est vraiment dans la création d'un imaginaire éperdu, des grottes, des maisons abandonnées, quelque chose de très poétique et à la barre, donc un Koji Kondo qui va être éblouissant et qui va construire des bandes originales tellement frappante qu'elles sans doute modifieront à jamais la vision qu'on peut avoir de la musique dans un jeu vidéo et donc même l'histoire du jeu vidéo. Koji Kondo qui travaille à partir de quasiment rien. La plupart des équipes le disent à l'époque. Comment a-t-il pu, à partir de quelques annotations, musique de fond dans une grotte, imaginer ce qu'il imagine? On va le comprendre, il a tout à fait compris, Koji Kondo, l'enjeu du rôle qui est le sien dans l'existence même d'un tel jeu. Un jeu qui est profondément marqué par l'influence de la musique française du début du siècle, parce que Koji Kondo en écoute beaucoup. Le jeu devait s'ouvrir d'ailleurs sur le Boléro de Ravel, avec ce 8-bits. Il se trouve que les héritiers de Ravel n'étaient pas encore tout à fait... Les droits n'étaient pas tout à fait libres. Et donc, Kondo va composer un thème qui deviendra important. Mais écoutez-le, Koji Kondo nous raconter le pouvoir de la musique sur la réussite d'un jeu vidéo. Dans un jeu, je crois vraiment que la musique est extrêmement puissante. Et tout le monde l'avait compris à l'époque. C'est elle qui permet de créer une atmosphère. C'est elle qui permet d'accompagner une montée d'émotion, une descente d'émotion. C'est un élément absolument vital pour créer un jeu qui soit agréable à jouer. Et je pense que la musique joue aussi un rôle extrêmement important pour vous permettre de vous rappeler du jeu. C'est-à-dire que c'est elle qui inscrit le jeu dans votre mémoire à jamais. Thank you. Koji Kondo est ce main theme de Zelda. Alors il se produit quelque chose de fascinant puisque le jeu va avoir un succès phénoménal immédiatement. Il va se passer quelque chose de très important, c'est que d'ores et déjà, à peine quelques mois après la sortie du jeu, des orchestres demandent du public pour de grands concerts avec orchestre de cette musique se produisent à Tokyo quasiment immédiatement. C'est un peu une entrée dans l'histoire de la musique de jeux vidéo avec la pauvreté de ses moyens. On entend le génie mélodique et d'une certaine manière la puissance harmonique. On sait aussi que immédiatement, parce que des joueurs y ont joué et s'y sont perdus, ils ont une connexion hyper précieuse. C'est ainsi que la musique de jeux vidéo va devenir l'une des productions, enfin l'un des endroits de production de musique des classiques les plus finalement prolifiques et prolixes de la fin, on va dire, du XXe siècle. Écoutez justement ce main theme. Qui reste évidemment encore aujourd'hui très puissant dans la franchise de Zelda, interprété par un beaucoup plus grand ensemble. Koji Kondo, qui tripatouille ce thème, le main theme de Zelda, en quelques jours seulement. Une mélodie immédiatement reconnaissable et extrêmement adaptable aux contraintes de la Nintendo, qui va évidemment beaucoup, beaucoup évoluer. Il y a le thème qui reflète à la fois cette exploration du danger, mais qui est extrêmement optimiste, vous l'entendez. Il y a des accents rythmiques qui évoquent le suspense, la curiosité. On entend le lien avec Ravel. Ce qui est intéressant, c'est les sources d'inspiration de Koji Kondo. Koji Kondo était vraiment le premier compositeur que Nintendo s'octroyait, un compositeur qui n'était pas d'abord un technicien avec quelques notions, mais qui venait vraiment de la composition et de la musique classique. Écoutez ce qu'il nous dit sur les influences musicales qui ont présidé à l'écriture de ces thèmes mythiques des années 80. Je pense que les musiques qui m'ont le plus influencé, c'était évidemment celles que j'écoutais quand j'étais enfant. Il y avait le jazz, j'adore le jazz, mais aussi la musique latine. Et puis, évidemment, les petits jingles qu'on entend à la télévision. Mais il est vrai que récemment, et depuis que je travaille sur les jeux, je me suis mis à réécouter beaucoup, beaucoup de musique classique. Notamment les concertos de Rachmaninov, par exemple. Moi, j'aime les morceaux qui ont vraiment au centre de tout une très belle mélodie, parce que c'est celle qui laisse l'impression la plus durable et qui permet de se projeter émotionnellement. Un extrait de la cathédrale en Douti, petit chef-d'œuvre pianistique de Claude Debussy, interprété ici par le merveilleux Alain Planès, qui a évidemment profondément influencé toute cette génération de compositeurs japonais. C'était le cas aussi d'un Ryuichi Sakamoto. Toute cette génération japonaise écoute beaucoup, très intéressée par les trouvailles harmoniques de ces musiciens presque impressionnistes. Cette cathédrale engloutie, on la retrouve à la fois dans le sens et puis dans ce que cherche à faire Kondo, dans le très fameux Underworld theme de la légende de Zelda. C'est un moment important puisque c'est un thème qui accompagne toutes les zones souterraines et dangereuses de ce tout premier Zelda. Cette fameuse idée de grotte, de quelque chose de mystérieux, sombre, hypnotique. L'impressionnisme de Debussy, on le retrouve dans la partition de Kondo, dans la fluidité des arpèges, ces espèces d'accords flottants qui évoquent la profondeur et le mystère avec encore, je vous le rappelle, trois pauvres petites notes. Génial, Dr. Willy Stage 1 dans Mega Man 2, un jeu qui date de 88. Vous entendez là, comme elle se fait créative. Et alors, beaucoup moins atmosphérique, elle est à la fois destinée vraiment à créer de la mélodie et à accompagner un jeu d'action et de précision. C'est-à-dire que tous les apports, tout ce qu'on a développé dans les dernières années, une musique d'abord comme un son, puis comme une mélodie qui incarne l'émotion, puis comme une capacité à créer le paysage, commence à évoluer avec ces mélodies qui sont à la fois rythmées et absolument géniales. Elles vous englobent. Ce jeu et cette composition, par exemple, peut nous faire penser, c'est ici Takashi Tateishi qui est aux manettes, à bien d'autres thèmes qu'on retrouve, et notamment à du Bach, à du baroque un peu excité, notamment à la fameuse toccata et fugue en ré mineur de Bach, qui sera utilisée dans ces années-là dans pas moins de 14 jeux. C'est vous dire à quel point les Japonais ont entendu ce que peut la musique de la Renaissance.
Thank you.
Marie-Claire Alain, qui interprète ici brillamment cette toccata et fugue qui marque un peu le passage du baroque à l'âge classique. Alors, ce moment des années 80 à, disons, la fin des années 90, c'est un peu l'âge d'or de la musique classique dans le jeu vidéo, pour la simple et bonne raison que, déjà, la plupart, sauf le boléro de Ravel, des pièces qu'on peut utiliser sont libres de droit. Vous avez entendu dans Tetris des motifs russophones dans le générique concocté par notre réalisateur Tona Jost. On pouvait jouer sur du Tchaïkovski dans Tetris. Et l'influence de Bach, qu'on donc retrouve dans 14 jeux vidéo en version 8-bits, on vous l'épargnera, est très forte aussi. Pourquoi ? Eh bien parce que avec quelques canaux sonores seulement, l'idée c'est de trouver des motifs mélodiques le plus riches possible. Vous allez l'entendre ici dans l'incroyable The Moon, un morceau composé par Hiroshige Tonomura pour DuckTales, un jeu de plateforme développé par Capcom. On est en 89, le joueur incarne Picsou, il y a des niveaux thématisés, mais un gameplay qui compose à la fois avec de l'exploration, puisqu'on se balade en Himalaya, en Transylvanie, en Égypte, et aussi des sauts précis, des combats, le tout dans une très grande fluidité pour l'époque. L'idée, et vous allez l'entendre ici, c'est d'avoir dans ce thème des harmonies et des contrepoints vraiment façon Bach les plus astucieux possibles, avec une musique qui fonctionne comme un guide. Petite inventivité dans DuckTales de ce morceau The Moon, presque techno, vous l'avez entendu. Alors, il est impossible de faire l'énorme résumé de tout ce que ces trouvailles à l'époque suscitent. Évidemment, tout ça se déploie dans d'autres jeux, mais je crois qu'on peut le dire. C'est l'apparition d'une nouvelle franchise qui dure encore jusqu'à aujourd'hui et dont l'ampleur musicale a durablement marqué à la fois l'industrie et même l'histoire de la musique. C'est ça, le Final Fantasy. Et Final Fantasy va se trouver dès ses débuts un très talentueux compositeur. Il s'appelle Nobuo Uematsu. Il va devenir l'un des pionniers. Écoutez-le nous raconter justement ce que vous avez entendu jusque-là, comment on travaillait à l'époque chez Nintendo et quels choix concrets musicalement on devait faire quand on était compositeur. Quand j'ai commencé à travailler sur les jeux de Nintendo Famicom, on avait donc le droit d'utiliser uniquement 3 sons pour composer la musique. Donc le truc, c'était qu'il fallait choisir de quelle façon on allait utiliser ces 3 sons. On pouvait décider de faire plutôt une ligne de basse, une mélodie et une partie de cordes ou d'arpège. Ou alors, si on voulait une mélodie un peu plus riche, on devait choisir d'avoir une basse, 2 lignes mélodiques. Mais c'était donc des choix cornéliens, parce qu'il fallait créer une musique originale avec ça, et qui devait vraiment durer dans l'esprit des gens. Et on travaillait tous les jours avec les programmeurs pour faire en sorte que ça fonctionne. The Main Theme que Uematsu va composer en quelques minutes et qui ne pensait absolument pas qu'il deviendrait le thème principal de toute la saga, un thème qui aujourd'hui ne cesse de s'enrichir puisqu'à mesure que les consoles s'enrichissaient, il pouvait, Uematsu, finir par associer de nombreux instruments et aujourd'hui c'est une musique qu'on peut entendre évidemment partout dans une toute puissance symphonique Final Fantasy qui va devenir, comme on le sait, l'un des plus grands jeux d'aventure. Il y a tout l'espoir et le souffle héroïque de cette franchise presque immortelle aujourd'hui dans ces trois petites notes. Écoutez-le, quittons-nous avec une version orchestrale interprétée par le London Philharmonic, tout simplement. Très agréable de poser sa voix sur cette mélodie qui nous enrobe. C'était le premier épisode de cette série que nous continuerons dès la semaine prochaine. Merci beaucoup à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, à Thomas Joss, son réalisateur, ainsi qu'à Nicolas Riboulet, qui est le roulé, qui était aux platines aujourd'hui. Pour sa patience, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de la série musicale pour retrouver toutes nos séries. Et à la semaine prochaine.